Eh bien, c'est parti pour continuer la liste des outils pour mieux mémoriser. Donc, on va démarrer avec le numéro 9. Vous retrouverez les 8 premiers dans l'autre podcast. J'ai séparé pour pas que ce soit trop long au cas où vous voudriez faire des pauses. Donc, l'outil numéro 9, c'est le jeu des liens. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la mémoire à long terme, qu'on appelle aussi la mémoire sémantique, elle regroupe toutes les connaissances sur le monde. Et quand on la booste, on arrive à créer des liens plus facilement entre les choses. Donc le jeu, là, l'outil que je vous partage, c'est un jeu qui va vous servir d'entraînement et en même temps de vous amuser à passer le temps quand vous avez quelques minutes d'attente, par exemple pour attendre le bus, pour passer en caisse, dans la voiture, etc. Donc c'est un jeu qu'on peut faire tout seul, sans parler, mais on peut le faire aussi à l'oral avec les enfants si besoin. Donc l'idée est la suivante, vous allez prendre deux éléments qui n'ont rien à voir entre eux. Deux éléments, ça peut être deux objets, ça peut être deux notions, voilà. Deux éléments qui vous viennent comme ça au pif. Si vous n'arrivez pas à trouver deux éléments, eh bien demandez à quelqu'un de les trouver pour vous, de dire deux choses qui te passent par la tête et puis tu me les dis et voilà. Donc vous faites ça, vous prenez deux éléments et vous cherchez un lien entre ces deux choses. Le but, c'est d'aider la mémoire à créer des liens. Donc vous allez peut-être faire des liens complètement alambiqués, complètement farfelus, etc. L'objectif, c'est pas forcément de trouver un lien qui soit totalement logique et plausible. Ça peut, hein, si vous y arrivez, tant mieux. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Mais c'est que l'objectif, c'est de s'exercer à créer des liens. Et quand on s'habitue à créer des liens de plus en plus rapidement, ben, ça va devenir naturel pour des éléments qui ont facilement des liens entre eux. Donc quand vous allez découvrir des nouvelles notions et que vous avez déjà des notions enregistrées, vous allez facilement faire le lien entre ces deux choses et du coup mieux mémoriser la chose nouvelle par rapport aux choses anciennes que vous avez déjà enregistrées. Donc on peut toujours réussir à trouver des liens entre deux choses, même si ces choses n'ont rien à voir entre elles. Cet entraînement permet ensuite d'associer plus facilement les nouveaux éléments d'un cours, par exemple, ou d'une leçon, avec ce qu'on a déjà appris. Donc, retenir les nouveaux éléments beaucoup plus vite et pour une durée plus longue. C'est l'objectif grâce à ce petit jeu et à cet exercice. Donc ça, c'était l'outil numéro 9. Maintenant, passons à l'outil numéro 10, si mon ordinateur veut bien, parce qu'il est un peu capricieux. Là, c'est un jeu qui s'appelle le jeu du quotidien. Et c'est très simple, en fin de journée, vous allez vous remémorer avec le plus de détails possible ce qui s'est passé depuis que vous vous êtes réveillé. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit vous notez dans l'ordre de votre réveil à maintenant. Vous pouvez aussi le dessiner en fin de journée, si vous aimez bien dessiner, faire des graphiques, etc. La journée qui vient de se dérouler. Le but, c'est de symboliser, de simplifier, de représenter en une page ce qui s'est passé. Hein. Donc, si vous choisissez le dessin, c'est pas d'aller dans tous les détails. Mais vous pouvez aussi le faire à rebours, c'est-à-dire en partant de maintenant et en remontant progressivement, en vous disant « et avant ça, j'ai fait quoi ?» et ainsi de suite, jusqu'à votre réveil. C'est un exercice qui n'est pas si facile, pas si évident que ça en a l'air. Et plus il y aura de détails dans votre remémoration, plus vous boostez votre mémoire. Parce que vous réalisez qu'en fait, la journée, vous avez fait des choses dans un ordre logique, etc. Et après, vous allez voir que vos journées suivantes, eh bien, vous allez faire les choses peut-être différemment pour mieux les intégrer, pour mieux vous en souvenir, pour mieux la différencier avec une journée précédente, etc. Donc ça, c'est le jeu du quotidien qui est l'astuce numéro 10. Ensuite, l'astuce numéro 11, c'est la technique des acronymes. C'est un petit peu comme la méthode des crochets qu'on a vu dans l'autre podcast, sauf que cette fois, c'est sans les chiffres. L'objectif, c'est de retenir des noms ou des mots dans un certain ordre avec les initiales des mots. Donc, avec les initiales des mots, on va former soit un nouveau mot, soit une phrase. Je vais vous donner deux exemples concrets pour bien comprendre l'astuce, pour qu'à votre tour, vous arriviez à vous créer vos propres acronymes. Donc, c'est un moyen mnémotechnique comme un autre, hein. Premier exemple, on va prendre les initiales des mots à retenir pour faire une phrase avec. Par exemple, un exemple tout simple, c'est les planètes du système solaire. Les planètes du système solaire, on a Mercure avec le M. On a Vénus avec le V. On a Terre avec le T. On a Mars avec le M. On a Jupiter avec le J. On a Saturne avec le S et Uranus avec le U. On peut rajouter aussi Neptune avec le N. Et enfin Pluton, Pluton qui n'est pas toujours considéré comme une planète, mais si on rajoute Pluton, on rajoute un P. Donc on a le MVTMJSUN. On est d'accord avec ces lettres dans cet ordre, on ne peut pas former un mot. Donc là, on va former une phrase. Et la phrase, ça sera « Mon vaisseau te mène jusque sur une nouvelle planète. » Mon, on a le M de Mercure. Vaisseau, on a le V de Vénus. Te, mon vaisseau te, le T de Terre. Mène, le M de Mercure, de Mars, pardon. Le jusque, mon vaisseau te mène jusque, le J de Jupiter. Jusque sur, le S de Saturne. Une, le U de Uranus. N, de nouvelle, sur une nouvelle de Neptune. Et planète pour le P de Pluton. Donc mon vaisseau te mène jusque sur une nouvelle planète. Si on retient cette phrase, qui est facile à retenir, qui parle de planète en plus, il suffit de reprendre les premières lettres et de remettre les planètes dans l'ordre. D'accord ? Maintenant, si on décidait que Pluton, on l'élimine de l'équation, puisque comme je vous l'ai dit, Pluton n'est pas forcément considéré comme une planète. Elle l'a été, ensuite elle a été considérée comme un satellite d'une autre planète, puis finalement certains la remettent comme une planète aujourd'hui. Donc voilà, on ne sait pas trop. Donc si vous voulez apprendre les planètes sans Pluton, eh bien vous pouvez modifier la phrase. Au lieu de dire « Mon vaisseau te mène jusque sur une nouvelle planète », on mettra « Mon vaisseau te mène jusque sur un nuage ». Voilà, donc ça c'est le fait de prendre les initiales des mots à retenir et de faire une phrase avec. On a refait ces initiales, reforme d'autres mots, ça fait une phrase qui est facile à retenir. Maintenant, on peut faire un acronyme en prenant les initiales des mots à retenir et pour faire un mot, un seul mot, pas une phrase. Donc, les initiales vont former un mot. Par exemple, SPA, S-P-A. On a l'habitude que ce soit Société Protectrice des Animaux. On est d'accord ? Le S pour Société, le P pour Protectrice, le A pour Animaux. Eh bien, on peut aussi dire SPA, S-P-A, pour retenir l'ordre des philosophes de l'Antiquité grecque. Qui c'est ? Eh bien, c'est S pour Socrate, P pour Platon et A pour Aristote. Ce sont les trois philosophes les plus connus de l'Antiquité grecque dans leur ordre d'apparition. Donc Socrate, Platon, Aristote, SPA, et on a le mot SPA. Alors cette technique des acronymes permet de retenir des notions qu'on doit apprendre à l'école, des leçons, des philosophes, des choses dans un certain ordre, voilà. Et puis, on peut aussi l'utiliser pour inventer un mot de passe puissant pour son compte de mail, par exemple. Vous allez vous créer une phrase avec une date, des chiffres ou je ne sais quoi, une phrase qui a un sens pour vous, et vous allez prendre que les initiales des mots. Ça va former un mot qui n'a ni queue ni tête et qui sera impossible à retrouver pour des gens. Mais pour vous, ça vous fait un mot de passe puissant. Et vous savez très facilement le reconnaître, le retrouver, et ça vous évite de perdre vos mots de passe. Voilà, donc ça c'était l'astuce numéro 11, la technique des acronymes. Maintenant, je vais vous parler de l'outil numéro 12, qui est la courbe de l'oubli et la méthode des répétitions. Donc la courbe de l'oubli, elle a été mise en évidence par Hermann Ebbinghaus. Je ne sais pas, je ne parle pas allemand, c'était un psychologue allemand. Et donc en fait, il a mis en évidence la courbe de l'oubli en 1885. Il dit que, le postulat est le suivant, une information qui est mémorisée disparaît très vite de la mémoire. C'est ce que je vous ai expliqué, la mémoire à court terme. Au début, on enregistre les choses dans la mémoire à court terme. Et pour la faire passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, eh bien, il faut des répétitions. Il vaut mieux répéter régulièrement une information pour pouvoir la garder plus longtemps en mémoire que de passer beaucoup de temps à apprendre, par exemple une heure, et puis de ne pas répéter. Parce que la courbe de l'oubli, elle sera toujours la même. Et quand on fait un rappel, eh ben on va prolonger la durée de vie d'une information mémorisée. Donc au bout d'un moment, il n'y aura plus besoin de rappeler parce qu'elle sera complètement intégrée dans la mémoire à long terme. Elle sera mémorisée à vie. Mais en pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va répéter et qu'on va espacer les séances d'apprentissage et augmenter à chaque fois la durée entre deux répétitions. Donc voilà comment ça se passe pour éviter la courbe de l'oubli et pour la squeezer et pour permettre à une information de rester à long terme. Donc, quand on apprend une leçon, un théorème, des mots de vocabulaire ou une poésie le premier jour, eh bien on va faire un ou deux rappels le premier jour avant d'aller dormir. Donc il vaut mieux passer 10-15 minutes sur un truc et puis se faire un rappel, une séance de 5 minutes, peut-être 2 heures après, 3 heures après, le soir avant d'aller se coucher. D'accord ? Ensuite, on va faire un rappel le deuxième jour, donc le lendemain. On va faire aussi un rappel le troisième jour. Donc vous voyez, les premiers rappels sont assez rapprochés dans le temps. Le jour 1, le jour 2, le jour 3, il y a quand même plusieurs rappels. Mais ensuite, on va programmer et on va espacer de plus en plus. Donc par exemple, un rappel dans 3 jours, par rapport au jour 3, ça fait par exemple le jour 6, puis une semaine après, puis une fois par mois, puis dans 3 mois, etc., etc. Donc pour faire simple, avec la courbe de l'oubli et la technique des répétitions, il vaut mieux apprendre en 5 séances de 5 minutes qu'en une séance de 25 minutes. C'est non seulement plus facile, plus rapide, ça demande moins de concentration, moins d'attention, donc ça demande moins d'énergie, et en plus c'est plus efficace. On s'en souvient plus longtemps, et pas uniquement pour l'interrogation du lendemain, on est bien d'accord. Outil numéro 13, le par cœur avec la méthode des 5 étapes. Parfois on a besoin d'apprendre plein d'éléments. Les pays et leur capitale, les drapeaux du monde, des verbes en anglais, les organes du système de reproduction. Voilà, c'est quelques exemples qui me sont venus quand j'ai voulu vous détailler cet outil. Et du coup, on a besoin d'apprendre par cœur ces choses-là. D'accord ? Donc, il y a 5 étapes. 5 étapes pour vous faciliter la vie dans l'apprentissage du par cœur. C'est vraiment pour le par cœur et pour rien d'autre. La première étape, c'est de prendre la liste des éléments que vous devez apprendre et de barrer tous ceux que vous connaissez déjà. Parce qu'il y en a toujours. Par exemple, si on prend une liste de mots, de verbes en anglais, il y en a toujours quelques-uns qu'on connaît déjà, qu'on a déjà entendu, etc. Si on veut apprendre les drapeaux du monde, il y aura toujours des drapeaux qu'on connaît déjà parce qu'on les a appris avant, sans le voir vraiment, mais c'est comme ça. Donc, première étape, on élimine les éléments qu'on connaît déjà. Ça permet de réduire la liste, de réaliser que finalement on a moins de choses à apprendre que prévu, et du coup ça fait du bien au moral, donc ça nous met dans une disposition qui est positive. La deuxième étape, c'est de découper en petites tâches. Apprendre 5 choses par jour, c'est bien. Si vous avez une facilité de mémorisation qui est supérieure, vous pouvez augmenter à 8 ou à 10 par exemple. Tout comme on peut aussi en prendre moins, en prendre 3. Ça, c'est vraiment en fonction des éléments à apprendre et le temps qu'on a pour les apprendre et notre capacité de concentration et de mémorisation. La troisième étape, c'est de donner un sens à chaque élément. Donc, il faut trouver un moyen mnémotechnique pour que l'élément qu'on doit apprendre représente visuellement quelque chose, ou qu'il y ait un acronyme possible, ou alors qu'il y ait un mot qui nous en rappelle un autre, ou encore qu'il y ait une histoire à raconter, ou qu'il y ait un lien rigolo à établir avec un autre élément qu'on connaît déjà. Cette étape, elle est vraiment indispensable de donner du sens, parce qu'elle peut prendre du temps au début, parce qu'il faut s'habituer à le faire, et au début il faut aussi faire preuve d'imagination, c'est pas forcément naturel, mais après c'est une encre solide qui permet à l'information de ne pas s'oublier. Direct, on va faire le lien entre l'image qu'on s'est faite, la chose rigolote, etc., et l'élément qu'on doit apprendre. Et puis quatrième étape, c'est de rechercher une symbolique ou alors une histoire. Ça, c'est quand on ne trouve pas une évocation à l'élément, quand on n'arrive pas à donner un sens à l'élément, comme à l'étape numéro 3, quand on n'arrive pas à donner un sens, à trouver un moyen mnémotechnique, à trouver un acronyme, un mot ou une histoire, etc. Et bien là, comme rien ne nous évoque ce mot qu'on doit apprendre, et bien on va chercher son histoire, son étymologie, sa symbolique. Ça va être des clés pour mémoriser, là encore, pas par l'image, parce que l'image, on ne l'a pas eue de nous-mêmes, mais par la recherche qu'on va effectuer. Et comme on n'apprend que 5 éléments par jour, en moyenne, on ne sera pas noyé sous les différents éléments. Et du coup, la cinquième étape, c'est de faire des rappels. 2-3 rappels le jour même, puis le lendemain avant d'apprendre les 5 éléments du jour, de remémorer ce qu'on a appris précédemment, de suivre la courbe de l'oubli, etc., en programmant des rappels. Et là, on combine plusieurs outils, comme la courbe de l'oubli et les rappels, et les astuces mémotechniques et les images mentales et le fait d'apprendre par cœur. Donc ça, c'est la méthode du par cœur en 5 étapes. Je répète, barrer tous les éléments qu'on connaît déjà dans la liste qu'on doit apprendre, découper en petites tâches, donner un sens à chaque élément. 4e étape, si on n'arrive pas à donner du sens à chaque élément, on recherche la symbolique ou l'histoire. Et 5, on fait des rappels. Toujours dans le par cœur, cette fois-ci, outil numéro 14. Là, c'est pour apprendre par cœur du mot à mot. Quand est-ce qu'on a besoin d'apprendre par cœur en mot à mot ? C'est pour apprendre une poésie, ou pour apprendre un texte de théâtre, ou encore un discours. Voilà. Donc là, cette technique, elle vient de Nelson Delis, qui est un champion de la mémorisation britannique. Et elle est vraiment, vraiment très, très efficace. Donc si vous voulez apprendre par cœur quelque chose mot à mot, même avec la ponctuation si vous le souhaitez, Et en vous amusant, en vous permettant de trouver une façon ludique et ultra efficace, eh bien voici cette méthode en quatre étapes, non, en cinq étapes, pardon. La première étape, c'est de prendre le texte à apprendre. Alors pour exemple, eh bien j'ai pris le début du poème de Victor Hugo, Demain dès l'aube. Donc ça dit, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Donc quatre vers pour ce poème. Première étape, comme je vous ai dit, on sélectionne le texte à apprendre. Deuxième étape, on le lit à voix haute deux fois. Donc là, je l'ai fait une fois, je le relis une deuxième fois, une troisième fois si j'ai besoin, faut que je sois à l'aise avec. Troisième étape, je note la première lettre de chaque mot sur un papier avec la ponctuation quand il y en a. Donc là, par rapport à ce poème, à ces vers avec les virgules, les points, etc., ça donne D, virgule, DL apostrophe A, virgule, AL apostrophe HOBLC, virgule, etc., etc. Donc je fais ça. Et ensuite, juste avec les initiales et la ponctuation, j'essaye de restituer le texte en lisant uniquement ces initiales. Donc j'ai mon post-it avec les initiales et la ponctuation. J'essaye de restituer. Donc le premier D, ça peut être plein de mots, mais je me rappelle qu'il parle de demain, demain, dès l'aube, etc. J'essaye de restituer, d'accord? Cinquième étape, je relis le texte que j'ai sélectionné et je recommence. Je recommence juste en me basant sur les initiales et la ponctuation. Et je mémorise ainsi tout le texte. Et ensuite, bah, je remémorise, enfin je me remémore sans les initiales, juste avec ce que j'ai appris. Vous allez vraiment être bluffé de comment c'est facile d'apprendre par cœur avec cette technique. Et si en plus vous ajoutez les représentations mentales, vous vous imaginez la scène de ce qui se passe au fur et à mesure du poème, eh bien ça va vraiment démultiplier le truc. Ensuite, technique numéro 15, la technique du tiroir à chaussettes en trois étapes. La technique du tiroir à chaussettes repose sur l'histoire suivante. Imaginez que dans une maison, tous les vêtements soient mélangés et rangés n'importe comment. On peut avoir les robes de madame avec les pulls de fiston, les pantalons de monsieur avec les chaussettes de la fillette. Et si la fillette décide de chercher ses chaussettes, eh ben elle va clairement galérer et y passer beaucoup de temps. Alors que si, en revanche, les chaussettes sont rangées dans un tiroir, dans une commode, toujours le même tiroir, toujours la même commode, dans sa chambre. Alors non seulement elle sait où chercher ses chaussettes, mais en plus, elle sait qu'elle va les trouver. Et ben c'est pareil pour notre cerveau, il fonctionne exactement de la même façon. Notre matière grise classe et range les éléments comme dans des tiroirs. C'est le meilleur moyen de retrouver une information quand on en a besoin. Donc, voici les trois étapes pour permettre au cerveau de ranger une nouvelle information dans la bonne armoire et dans le bon tiroir. La première étape, c'est de voir les choses dans la globalité. Qu'est-ce que je dois apprendre? Quel est le thème? Quel est le lien avec ce que je connais déjà? C'est un peu comme si on cherchait la bonne pièce de la maison pour ranger la paire de chaussettes. Est-ce que c'est la cuisine? Est-ce que c'est la salle de bain? Est-ce que c'est la chambre? Cette nouvelle leçon que je vais devoir apprendre, est-ce que c'est quelque chose que je peux placer historiquement dans une ligne du temps? Dans une période que j'ai déjà découverte? Ou alors est-ce que c'est une notion de mathématiques qui me permet d'aller plus loin par rapport à certains exercices que j'ai déjà faits, dont je me souviens dernièrement les avoir perçus de telle façon, etc. Ça, c'est la première étape. Trouver la pièce où on range la paire de chaussettes, c'est-à-dire voir les choses dans la globalité. Quel est le thème de ce que je dois apprendre? Quel est le lien avec ce que je connais déjà? Deuxièmement, c'est la structure. Comment est structuré le cours ou la leçon que je dois apprendre? S'il n'y a pas de structure particulière, eh ben comment est-ce que je peux diviser en plusieurs petites parties cohérentes? Chaque petite partie va être une étape, des petits paragraphes ou des petits sous-chapitres, etc. Donc pour reprendre la métaphore du tiroir à chaussettes, ça équivaut à définir les différents tiroirs de l'armoire, en fait. Maintenant que je sais dans quelle pièce je dois ranger tel élément, eh bien je dois créer les différents tiroirs de l'armoire et attribuer un type d'élément dans chaque tiroir pour pas tout mélanger. Et la troisième étape, c'est le rangement. Une fois que les deux étapes précédentes sont faites, eh bien on peut lire le cours, la leçon, apprendre chaque partie l'une après l'autre. Et c'est l'étape du rangement parce qu'en faisant ça, je range les chaussettes avec les chaussettes, les collants avec les collants, les t-shirts avec les t-shirts, etc. Ce que j'apprends, je le range au bon endroit. Donc c'est plus facile d'apprendre, mais c'est aussi plus facile de retrouver l'information que j'ai apprise. Si cette technique est mise en place à chaque fois, ça ne prend qu'une ou deux minutes avant de lire et d'apprendre quelque chose de nouveau, mais c'est beaucoup plus efficace. Et si on ne fait pas les deux premières étapes, toutes les informations apprises vont être classées n'importe comment, comme une maison où rien n'a de logique, où tout est rangé un peu au pif et où il faut chercher pendant 3 heures une paire de chaussettes. Donc ça, c'était l'outil numéro 15. Maintenant, passons à l'outil numéro 16, qui sont les tests. Aujourd'hui, les tests ont une connotation très négative parce qu'ils renvoient à une notion de souffrance, à du dégoût, à de la compétition et aussi beaucoup à de l'échec. Or, se tester ou être testé, c'est un des meilleurs moyens d'apprendre en profondeur et de se souvenir longtemps de ce qu'on a appris. Les neurosciences ont montré qu'un bon apprentissage nécessite d'alterner le fait de mémoriser et le fait de se tester dans une même séance. Donc le test ne devrait pas être vécu comme un moyen de savoir si on est bon ou si on est mauvais, si on mérite une punition ou une récompense, ou encore de générer du stress. Non, le test, c'est simplement un bon moyen d'apprendre, une façon d'évaluer ce qu'on a compris dans un domaine à un moment donné. C'est une façon de se défier et de voir sa progression, rien de plus. Donc ça devrait être une source de plaisir. Et sur plaisir d'apprendre, le blog, évidemment, je ne parle que de choses qui permettent d'apprendre avec plaisir. Donc voici les étapes pour se tester. Déjà, on va mettre en pratique les 3 étapes de la technique précédente, c'est-à-dire le tiroir à chaussettes. Premièrement, déterminer dans la globalité ce que je dois apprendre. Deuxièmement, structurer et séparer en petites parties et savoir dans quel tiroir je vais ranger telle chose. Et troisièmement, lire ma leçon et apprendre pour que ce soit rangé directement dans le bon tiroir. Deuxième étape, je vais tester mes connaissances. Alors pour tester mes connaissances, il y a plusieurs façons. Je peux lire des questions ou me poser des questions. Soit c'est une autre personne qui me la pose, soit il y a des questions à la fin d'une leçon dans mon livre, par exemple. Donc je vais répondre à des questions. Deuxième moyen de tester mes connaissances, c'est par un exercice pratique. Troisième façon, c'est de réaliser un schéma ou une mind map pour résumer ce que j'ai appris, ce que j'ai compris. Il n'y a pas besoin d'y passer longtemps. 5 ou 10 minutes suffisent pour se rendre compte de ce qu'on a retenu dans la première séance de lecture ou de mémorisation. Troisième étape, j'enchaîne avec une deuxième séance de lecture et de mémorisation, la même chose. Et quatrième étape, je fais un deuxième test. Voilà. Donc 2 séances de lecture et de mémorisation, 2 séances de test. C'est pas long. Chaque séance de lecture ou de mémorisation dure 5-10 minutes, pas plus. Je fais une phase de test de 5-10 minutes, je refais une phase de séance de lecture de mémorisation et je refais une phase de test. Ensuite, on fait une pause, on passe à autre chose et on se refait une séance relecture et mémorisation de 5 minutes avant de dormir parce que là, c'est la technique de rappel. Donc là, c'est juste pour relire, se remémorer, se replonger dedans. Donc voilà, de 5 minutes, pas plus. Et puis pareil pour le lendemain, etc. On est d'accord ? Ça, c'était la technique numéro 16. Maintenant, l'outil numéro 17, c'est d'apprendre dans la baignoire. Alors, le titre est rigolo. En fait, on est parti du postulat suivant. Ça nous est déjà tous arrivé d'avoir très très bien appris une leçon et de ne pas savoir le restituer le jour de l'examen. Il peut y avoir plusieurs raisons, par exemple le stress, ou alors des événements familiaux, etc., personnels, qui font qu'on n'a absolument aucune attention, concentration, et que c'est impossible pour nous de fonctionner de manière normale. Mais il peut aussi y arriver une explication simple et qu'on va pouvoir éliminer grâce à cette nouvelle technique. C'est le fait que parfois on se souvient de ce qu'on a appris uniquement dans le même contexte. Donc, devant la feuille lors de l'examen ou devant la maîtresse, par exemple quand on doit réciter sa poésie, etc., on est dans un contexte complètement différent de quand on a appris à la maison, dans sa chambre, sur son lit ou dans le jardin, etc. D'accord ? Donc, comme le cerveau, il fait des liens entre les choses, lui, il a associé l'apprentissage, ce qu'on a mémorisé, au lieu, au contexte. Et donc là, on est dans un nouveau contexte, donc il n'arrive pas à retrouver les informations. Donc si j'apprends ma leçon avec toutes les techniques précédentes, mais que je le fais toujours au même endroit, toujours dans la même pièce, par exemple, dans ma chambre, le cerveau va créer un lien entre l'élément appris et le contexte. Il va enregistrer le lieu, les sons, les positions, les odeurs, la luminosité, etc. C'est comme si le cerveau attendait d'avoir réuni certains de ces éléments de ce contexte en particulier pour restituer l'information, parce qu'il ne va pas réussir à la retrouver autrement. Donc la solution, c'est simple, c'est d'apprendre dans différents endroits. apprends dans la salle de bain, dans ta baignoire, apprends sur les WC, apprends dans la cuisine, apprends dans le jardin, apprends à l'arrêt du bus, apprends à la bibliothèque, voilà. Comme on apprend, si vous vous référez à ce que j'ai dit précédemment, on fait plusieurs rappels, on fait des séances d'apprentissage, de mémorisation, puis des séances test, etc. Eh bien, pour chaque séance de lecture d'apprentissage ou chaque rappel, eh bien, on le fait dans un contexte différent, dans une pièce différente, dans un lieu différent. Comme ça, on habitue le cerveau à ne pas créer un lien entre ce qu'on a appris et le contexte. Il va être habitué à avoir vu la même information dans différents contextes et du coup, il va retrouver les choses beaucoup plus facilement. Donc déjà, c'est apprendre dans différents endroits. Et la deuxième chose, c'est d'apprendre dans différentes positions. Debout, en marchant, en dansant, en faisant des étirements, ou assis, couché, etc. On apprend ainsi une même leçon ou un même cours dans différents contextes. Donc non seulement ça fait du bien au cerveau sur le moment, parce qu'il est à chaque fois dans un nouvel état d'alerte, et on ne lui laisse pas le temps de s'habituer et de se mettre en mode veille. Donc du coup, il mémorise mieux. Et en plus de ça, on prépare le cerveau à accéder aux informations enregistrées en toutes circonstances. Outil numéro 18, les cartes mémoire. La carte mémoire, c'est un outil qui permet de mettre en pratique la technique de la répétition espacée ainsi que celle du test après la séance de lecture et de mémorisation. Donc un autre élément important est que chaque personne fabrique ses propres cartes mémoire. Ça facilite aussi bien l'apprentissage parce que ça nous oblige à synthétiser nous-mêmes, à faire ressortir les éléments les plus importants. Et puis le fait d'écrire, ça met aussi en marche l'apprentissage par le côté kinesthésique. Donc c'est tout bénef de faire ses propres cartes mémoire. Donc au début, on accompagne l'enfant pour lui donner la technique, pour l'aider à le faire, etc. Mais après, c'est bien de le laisser créer ses propres cartes mémoire. Donc comment est-ce qu'on crée ses cartes mémoire? D'abord, il faut fabriquer des cartes, des petites cartes cartonnées. Là, le papier Bristol est parfait pour ça. Il suffit juste de découper des cartes de même taille. Toutes les cartes doivent être de la même taille. Après, quand on achète du papier Bristol, on en a du rose, du bleu, du jaune et du vert, je crois. Donc, on peut faire des cartes de couleurs différentes dans un même paquet pour, pareil, pour pas habituer les yeux, le cerveau à être habitué à la même couleur, etc. Donc, on découpe des cartes de même taille. Ensuite, d'un côté, on note une question et de l'autre, on note la réponse. Tout simple. Et troisièmement, eh bien, on va placer les cartes il faut que ce soit la question en premier. Et on pioche la première carte. Et donc, si on lit la question, on répond, on retourne. Si on a répondu juste, eh bien, on met la carte sur un tas à côté. Si on a répondu faux, eh bien, on replace la carte à la fin du paquet. Donc, cette méthode, elle est super géniale pour apprendre du vocabulaire d'anglais, par exemple, ou des dates en histoire, c'est-à-dire d'associer la date à l'événement, ou encore des formules mathématiques ou des règles grammaticales. Donc, ça peut être une question d'un côté, une réponse de l'autre. Ça peut être une date d'un côté et derrière, c'est l'événement qui est associé. Ça peut être le mot en français, puis derrière le mot en anglais, etc. Et donc on peut lire les cartes dans un sens et puis on peut lire dans l'autre sens. Par exemple, en prenant le verso, lire la réponse et retrouver la question, ou lire le mot en anglais et retrouver en français, ou lire l'événement et retrouver la date. Voilà, il faut pouvoir alterner, lire dans les deux sens, d'accord ? Le fait de séparer les tas, c'est-à-dire une fois qu'on a trouvé la bonne réponse, on sépare, on fait le tas à part et on remet à l'arrière les cartes pour lesquelles on n'a pas su répondre juste, ça a comme avantage de diminuer le temps de test et d'apprentissage parce qu'on va se concentrer sur les cartes qu'on maîtrise le moins. Celles qu'on maîtrise bien, eh ben on sait qu'elles sont, elles sont d'office à côté, quoi. Donc de temps en temps, on les relit pour suivre la courbe du rappel, mais quand on est en phase d'apprentissage, si on connaît la réponse, on l'élimine de la phase d'apprentissage. Voilà, donc les cartes, c'est vraiment un super, super outil qu'on ne peut pas utiliser dans tous les cas. Mais c'est sympa de le tester pour voir dans quelles conditions c'est le plus efficace. Outil numéro 19, la technique des 5 scans pour retenir un cours complet facilement. Cette technique est celle que je vous encourage à utiliser pour apprendre une leçon ou un cours dans sa globalité. Elle complète la technique des mots-clés. Elle peut aussi la remplacer si on aime alterner. Selon les thématiques des chapitres à réviser, selon les différentes matières, etc. Elle se fait en 5 étapes, en 5 scans. Donc, il n'est pas question ici d'apprendre par cœur. Il est question de retenir 80%, de retenir la majorité d'un cours en un minimum de temps. D'accord ? Donc, le premier scan, c'est de regarder le chapitre ou le cours sans le lire. Ça permet de prendre conscience de la taille de ce qu'on doit lire et d'apprendre et de se faire une estimation du temps que ça va prendre. Donc on repère le début, on repère la fin du cours, du chapitre ou de la leçon qu'on doit apprendre. Ça, c'est le premier scan. On regarde dans la globalité. Le deuxième scan, on regarde à la fin du chapitre de cours s'il y a un quiz, s'il y a un résumé, s'il y a des questions. Tous les encadrés, tous les résumés, toutes les questions sont là pour synthétiser l'essentiel, le plus important, ce qu'il faut retenir. Donc, si on mémorise les questions, même si on n'a pas encore lu le cours, hein, je vous le rappelle, on n'a pas encore lu les réponses, ben, quand on va lire le cours, et quand on lira les réponses, ben, on va savoir à quoi ça correspond et on va se souvenir davantage de ce qu'on a lu parce qu'on avait la question en tête avant. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième scan. Troisième scan, c'est de lire les titres et les mots en gras. Ça, ça oblige à reprendre le texte depuis le début, texte que je rappelle, on n'a toujours pas lu, hein, et à se focaliser sur les mots importants. Les titres, les sous-titres et les mots en gras sont les informations les plus importantes, donc les premières à lire. Quatrième scan, eh ben on va lire la première et la dernière phrase de chaque paragraphe. En français, la première phrase d'un paragraphe, elle introduit l'idée principale. Et la dernière phrase, elle est là pour résumer et pour conclure l'idée du paragraphe. Donc, entre les titres, les mots en gras, la première phrase et la dernière phrase de chaque paragraphe, on a déjà compris la majorité de la leçon. Et avec les questions qu'on a mémorisées, eh ben, on a déjà normalement les réponses à ces questions. Dernière étape, dernier scan, ben là, on lit le cours en entier, une seule fois, à voix haute. Et on ferme le cahier, ou le livre, ou la leçon. Et on se teste, soit avec la technique des cartes mémoire, soit avec des questions qu'une autre personne peut nous poser, soit en réalisant une mind map. Et le soir, avant de se coucher, on refait les quatre premiers scans. Et c'est tout. C'est ultra efficace. L'objectif, comme je vous l'ai dit, n'est pas de retenir par cœur, c'est de retenir le plus important d'une leçon. Et souvent, quand on apprend des choses, on n'a pas besoin d'apprendre par cœur, on a besoin de retenir les choses, les informations principales, de les hiérarchiser par rapport à ce qu'on sait déjà et de pouvoir expliquer la leçon avec les mots principaux, les choses principales, comme on a vu dans ce truc de 5 scans. Alors, comme je vous l'ai dit, ben, on peut se tester avec la mind map et donc dans ce 20e outil, je vais vous parler de la mind map. En anglais, mind signifie esprit, dans le sens de la réflexion. Et map, ça signifie une carte. On parle de map quand on a une carte pour se repérer, pour savoir quelle direction on doit prendre en voiture, etc. C'est une map. Et on dit souvent la map monde pour dire la carte du monde. Donc on pourrait franciser mind mapping ou mind map en entre guillemets, cartographie du cerveau qui réfléchit. Voilà. Mind map, c'est quand même plus court. Cet outil a été théorisé dans les années 70. Et il consiste à représenter visuellement des informations classées et hiérarchisées avec des liens logiques entre elles. Je vous l'ai déjà dit, notre cerveau ne classe pas les éléments les uns en dessous des autres, mais en arborescence, par association d'idées. Donc la mind map est une représentation physique de ce qu'il se passe dans notre cerveau. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi carte mentale. Elle permet plusieurs choses. Déjà, on utilise toutes les sphères de notre cerveau. On va utiliser autant la logique que les couleurs, autant les mots que les formes, autant le détail que la synthèse. Et sur une feuille au format paysage, on trouve des mots, des images, du mouvement, mais tout est logique. Et ça, le cerveau, il aime. Ensuite, on visualise les ramifications et les liens entre les informations. Donc ça permet une meilleure compréhension, ça permet une vue d'ensemble, une logique entre les éléments déjà appris et les nouveaux. Et le fait même de créer soi-même la carte ne peut pas se faire sans avoir compris les éléments du cours ou de la leçon, ni sans être posé les bonnes questions. Donc la spatialisation des informations facilite la mémorisation. Ensuite, on améliore les capacités cognitives, comme l'organisation de l'information, la réflexion et bien sûr la mémorisation. Puis la mind map, elle booste la mémoire. Déjà, on apprend en lisant le cours ou la leçon. C'est les étapes précédentes, évidemment. Ensuite, on apprend en créant la mind map. Parce qu'on va imaginer les ramifications, on va trouver les mots-clés, on va représenter certaines idées par des petits logos, des petits schémas, des petits pictogrammes, on va utiliser des couleurs, etc. Enfin, quand on doit relire la mind map pour se rappeler un cours, ben, elle est attractive visuellement. Du coup, tout revient en mémoire très vite. C'est donc à la fois un exercice parfait pour la phase test de l'apprentissage, que je vous ai détaillé dans la technique numéro 16, mais c'est aussi un outil de réactivation de la mémoire très original et ludique. Alors du coup, comment est-ce qu'on fabrique une mind map? Bah, déjà, prenez une feuille vierge et posez-la au format paysage, donc dans le sens de la longueur et pas de la hauteur. Ensuite, au milieu de la feuille, vous allez placer le titre, un mot ou plusieurs. Ça va être le sujet principal de la leçon, du cours que je veux synthétiser en mind map. C'est le cœur de la mind map. Donc, tout partira de ce mot. Il faut donc être précis dans le choix du titre. Troisième étape, je vais tracer les branches principales autour du cœur. Ça va être des flèches pour créer l'arborescence. Chaque branche, chaque flèche qui part du cœur, c'est un thème. Et pour chaque nouvelle idée, je trace une nouvelle branche. J'écris le thème sur la flèche. Ensuite, je vais tracer les branches secondaires. Cette fois, pour chaque thème ou chaque grande idée, j'apporte quelques détails. Donc pour chaque détail ou sous-idée, en fait, chaque élément complémentaire de cette idée, je trace une branche plus fine qui part de la branche principale. Donc ça part vraiment en arborescence. La cinquième étape, c'est une fois qu'on a mis tous les thèmes, donc toutes les branches principales, et puis tous les sous-thèmes à chaque branche principale, eh bien je vais embellir ma mind map. Je vais noter les mots importants, les mots clés, sur les branches et pas au bout, ni en dessous, tout simplement parce que mes yeux vont être guidés par les lignes, donc c'est plus facile à lire. Ces mots sont les mots-clés de ma leçon. Ensuite, j'ajoute des images, des pictogrammes simples. Comme le disait Confucius, une image vaut 1000 mots. Donc l'image, elle est là pour faire appel aux émotions, ce qui aide à mémoriser. Et enfin, j'ajoute de la couleur sur les branches, ce qui aide là encore à mieux mémoriser. Il n'y a pas vraiment d'âge pour comprendre une mind map. Certains en utilisent uniquement avec des images pour les plus jeunes enfants qui ne savent pas encore lire. Et pour fabriquer ses propres mind maps, l'enfant en est réellement capable, on estime vers 9-10 ans. C'est un ordre d'idée, certains vont y arriver seuls avant, d'autres plus tard. Quoi qu'il en soit, on peut les aider à réaliser les mind maps jusqu'à ce qu'ils soient capables de les faire par eux-mêmes. Donc je vous invite à taper mind map sur votre moteur de recherche. Vous trouverez de nombreux exemples pour tous les âges, pour tout type de leçons, que ce soit de la géographie, de l'histoire, de la politique, de la grammaire, des maths, enfin voilà. Certaines sont utilisables tout de suite sur des thématiques que votre enfant apprend en ce moment. C'est parfait pour l'initier au mind map. Et sinon, vous trouverez de quoi vous inspirer pour, à terme, concevoir les mind maps qui vous ressemblent et aider vos enfants à faire pareil. Parce qu'il y a quelque chose de très personnel dans la mind map qui implique beaucoup l'émotionnel dans l'apprentissage et c'est ce facteur qui permet aussi d'apprendre mieux. Donc, vraiment, utiliser des mind maps déjà faites, c'est super, mais si vous apprenez à faire les vôtres, c'est encore mieux. Et puis, j'ai un dernier outil, bonus, l'outil 21 dont je n'ai pas parlé exprès, c'est une petite surprise, c'est le Lapbook. Le Lapbook, c'est un outil qui est dans la même continuité que la mind map, mais qui fait encore plus appel à la créativité. Je ne vais pas trop le détailler parce qu'il demande plus de temps et que ce n'est pas toujours ce qu'un enfant souhaite faire pour apprendre ses leçons ou ses cours. Je vous en parle quand même en bonus parce que l'utiliser de manière ponctuelle, par exemple pour un exposé, ça peut remplacer une fiche de lecture classique aussi. Ça permet d'allier la mémoire et la créativité. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai mis dans le fichier PDF, donc à la fin, sur l'outil numéro 21. C'est un lien qui vous emmène sur une vidéo privée que j'ai faite à ce sujet, qui concerne les box plaisir d'apprendre, mais le principe, c'est le même pour tout Lapbook. Donc, je vous montre les techniques de base et ensuite, c'est à vous de jouer. Donc, je vous parle beaucoup plus en détail de la mind map, du Lapbook dans cette vidéo. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien dans le PDF et comme ça, vous aurez tous les éléments pour tester vous aussi le Lapbook et voir si c'est un outil qui peut vraiment aider votre enfant. Voilà, on arrive à la fin. Ces outils que je vous ai détaillés, que je vous ai proposés, méritent vraiment d'être connus et appliqués par un maximum de personnes parce qu'ils sont efficaces, parce qu'ils sont ludiques, ils sont pratiques, simples et qu'ils ont des résultats. Et vraiment, je suis contente, je suis ravie d'avoir pu vous aider, vous, ainsi que les enfants qui vont être au bénéfice de comment vous allez appliquer tout ça. Je vous encourage à faire connaître ce programme à un maximum de personnes parce qu'il peut sauver la confiance en soi d'un enfant, son estime de lui-même, ça peut l'aider à augmenter sa capacité à apprendre et à réussir dans ses apprentissages et à cultiver son plaisir d'apprendre. Donc ce programme n'est pas fait pour donner de l'espoir, même si c'est déjà bien. L'objectif, c'est vraiment d'apporter des solutions concrètes et j'ai vraiment hâte de lire vos témoignages, vos retours concernant les changements opérés grâce à tous ces outils. Donc merci de votre confiance, merci de votre fidélité et puis je vous dis à très bientôt pour vos témoignages, pour voir comment ça a pu changer la mémorisation dans le quotidien de vos enfants ou de vos élèves. Et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres outils plaisir d'apprendre. À bientôt, bye bye.